faudrait pas, quelquefois, nous arriver à une retraite avec des objectifs un peu trop particuliers, un peu mesquins. Nous cherchons quelquefois à la retraite, trouver des nouvelles recettes de pratiques de piété, etc. C'est pas ça. C'est vraiment, vraiment vivre de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Voilà, la vie chrétienne, c'est le Christ. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas Dieu ? Notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu, bien sûr, mais il est homme. Et je voudrais vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, ça change tout de notre religion. Ça transforme complètement notre religion. Et je voudrais faire un parallèle, justement, avec ceux qui ne reçoivent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit que juifs, musulmans, etc., nous adorons le même Dieu, je voudrais vous montrer que c'est profondément inexact, parce que nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le tout de notre religion. Et notre religion serait vraiment tronquée, notre religion serait complètement dévitalisée sans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer. Vous savez que Christ, le mot Christ, veut dire « oint », celui qui a reçu une onction. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans l'Ancien Testament, tous ceux que Dieu choisissait pour avoir une mission particulière, ils recevaient une consécration, une sorte d'onction. Et quels étaient les personnages particuliers qui avaient à jouer un rôle prépondérant ? C'étaient les prophètes, les rois, hein, et les prêtres, voilà, dans l'Ancien Testament. Donc, ces différentes catégories de personnes qui ont joué un rôle tout à fait particulier dans le peuple de Dieu, ils étaient une image de notre Seigneur Jésus-Christ, une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils annonçaient ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Eh bien, en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons le prophète par excellence, le roi par excellence, le prêtre par excellence. Voilà pourquoi on appelle le Sauveur, le Messie, Christ. Celui qui est oint, celui qui est consacré. Ouais, pour enseigner en tant que prophète, pour gouverner en tant que roi, et puis pour sauver en tant que prêtre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela, bien sûr, vous voyez, ces qualités de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en tant qu'il est homme. C'est en tant qu'il est homme. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il ne prie pas en tant que Dieu. Prier quelqu'un, c'est reconnaître que je suis en situation d'infériorité par rapport à celui auquel je m'adresse. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ prie, c'est évidemment en tant qu'homme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment en tant qu'homme. Notre prophète, celui qui a mission de nous enseigner la vérité, toute la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans son humanité qu'il est roi. Il est devenu notre chef. Oui. S'il n'y avait pas eu, quand on dit la nuit pascale, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Bien oui, s'il n'y avait pas eu le péché originel, quel serait notre chef? Ce serait Adam, un homme vraiment merveilleux, qui a la science infuse, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qu'Adam, hein, Adam par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ? Mirabilius reformasti, l'incarnation, la rédemption, nous a donné comme chef de l'humanité, ouais, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, par rapport aux anges, nous avons une nature infiniment inférieure aux anges, incomparablement inférieure aux anges. Le dernier des anges est bien au-dessus du plus haut des hommes. Mais voilà, par rapport aux anges, hein, eh bien nous avons comme chef notre Seigneur Jésus-Christ, excusez du peu. Hein, le chef des anges, ça doit être Saint-Michel, etc. Mais c'est un ange, nous c'est Dieu. Donc, pour nous hommes, c'est extrêmement valorisant d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ en tant que prophète, en tant que roi, en tant que prêtre. C'est parce qu'il a assumé notre humanité que nous avons cette chance inouïe d'avoir quelqu'un qui nous enseigne, quelqu'un qui nous gouverne et quelqu'un qui nous sanctifie et qui est l'un d'entre nous, qui a une nature humaine comme nous. Combien c'est encourageant, merveilleusement encourageant. Alors je voudrais vous montrer ensuite que Cette religion, nous devons la pratiquer, nous devons la mettre en œuvre, et tous à notre place, que nous soyons, que vous soyez mère de famille, que je sois prêtre, que certaines soient religieuses, etc. Nous avons tous, oui, ces vérités auxquelles nous adhérons, ces commandements auxquels nous nous soumettons, cette prière que nous faisons, ces sacrements, etc. Nous avons à les communiquer, à les rayonner. Nous devons être apôtres. Vous êtes tous, je pense, avec le sacrement, vous êtes tous confirmés et vous avez le devoir d'être missionnaire. Comment cette religion est non seulement pour moi, pour me sauver, mais aussi elle va m'aider à remplir ma véritable fonction sur terre. J'ai une mission sur terre. Je serai jugé sur l'emploi, l'utilisation que je fais de cette vérité, de ces commandements et de ces moyens surnaturels. Voilà. Alors reprenons, si vous voulez, ces points les uns après les autres. Oui. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment notre prophète. C'est lui qui nous enseigne la vérité. Sans doute, avant notre Seigneur Jésus-Christ, les hommes n'étaient pas dépourvus de cette connaissance. Dieu s'est toujours manifesté aux hommes, et même ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu leur fait connaître, se fait connaître, se révèle à eux, bien sûr, mais d'une manière très imparfaite. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a vraiment l'autorité pour nous enseigner la vérité, parce qu'il est, lui, la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est particulièrement convaincant quand il enseigne, parce qu'il enseigne par son exemple. C'est ça, évidemment, la vérité qui nous pénètre le plus, quand celui qui prétend être notre maître, notre docteur, eh bien, il met en application. Oui, il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ, « Chepit facere et docere ». Avant d'enseigner, docere, notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait, il a pratiqué. C'est ça qui donne à notre Seigneur Jésus-Christ une autorité particulière. Pendant 30 ans, notre Seigneur Jésus-Christ va mettre en pratique ce qu'il va enseigner pendant 3 ans. 10 fois plus, eh oui, ça change tout. Ouais. Donc, avant notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu parlait par les prophètes, bien sûr, les prophètes étaient les canaux, les intermédiaires de Dieu. Mais lorsque c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui prêche, ouais, sa parole a vraiment un impact, elle a une influence, elle a une capacité de conviction à nul autre pareil. Je suis venu en ce monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce qui me frappe beaucoup dans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que quand il enseigne, il n'enseigne pas du haut d'une chaire, en s'imposant d'une manière dictatoriale, tyrannique, etc. En disant, voilà, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ prêche humblement. Ça nous touche beaucoup de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ accepte les objections. Bien souvent, lorsqu'on lit l'Évangile, on est vraiment frappé de voir la mauvaise foi de ses adversaires. Ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ multiplier les miracles, ressusciter des morts, et lui demande encore des preuves. Tu pourrais nous prouver que tu es bien le Messie. Quelle mauvaise foi! Notre Seigneur Jésus-Christ pourrait les envoyer balader. Eh bien, il explique. Et même, il y a des choses qui sont bouleversantes. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, pendant sa passion, il est maltraité par ce serviteur du grand prêtre, il est souffleté par le serviteur du grand prêtre. Vous savez cet épisode, bien sûr. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses princes des prêtres qui lui demandent sa doctrine, quelle est sa doctrine. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, mais je n'ai jamais prêché d'une manière cachée. J'ai été dans le temple, j'ai prêché en public devant tout le monde. Si vous voulez savoir en quoi consiste ma doctrine, eh bien interrogez ceux qui m'ont entendu. Et à ce moment-là, le grand, le serviteur du grand prêtre envoie un soufflet à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tu parles au grand prêtre. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu dessécher cet homme qui vient de le souffleter, le réduire en poussière. Eh bien, il lui explique, « Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi, et si j'ai bien parlé, pourquoi me soufflais-tu » Ça me touche profondément. Notre Seigneur Jésus-Christ qui se donne la peine d'expliquer à cette ordure, enfin ce pauvre type. Ouais. Ça nous touche beaucoup. Si vous avez été dans l'enseignement, vous avez eu, je pense, des moments difficiles. Sans doute, c'est facile quand vous avez des élèves brillants, etc., qui comprennent avant que vous ayez parlé et qui comprennent mieux que ce que vous voulez leur dire. Mais c'est quand même pas la majorité. Vous en avez quand même qui vous regardent avec un œil un peu vitreux. Hein. Alors ça, c'est pas agréable. Eh bien, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ, il a accepté ça. Il a accepté ça. Il nous dit, dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ qui annonce sa passion. Ouais, et voilà. Il est venu pour ça, c'est pour son heure. Et il l'a répété plusieurs fois. Il a pris le temps de répéter les choses. Et l'Évangile nous dit, ils ne comprirent rien à ce qu'il leur disait. Ouais, pour eux, c'était un message complètement caché, etc. Ah, ça nous fait du bien. Hein? Vous voyez, quand vous avez des enfants qui vous comprennent, ben vous dites, je ne veux pas être au-dessus du maître, moi. Hein, c'est normal. Hein? Que mes enfants ne me comprennent pas, ou que mes élèves ne me comprennent pas. Vous voyez que lui, qui est le Fils de Dieu, qui a la parole de Dieu, il n'arrive pas à se faire comprendre. Hein? Eh bien, ça, c'est Jésus incarné. Ça, c'est ça, le prophète. Ça nous touche beaucoup. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Et c'est parce qu'il s'est incarné. C'est parce qu'il est homme qui peut nous donner cet exemple-là. On ne peut pas refuser la vérité de quelqu'un qui enseigne de cette manière-là. Et il y a bien d'autres manières où on voit notre Seigneur Jésus-Christ prêcher avec cette indulgence, avec cette compassion. Il arrive même quelquefois qu'il est quand même presque, je ne dirais pas au bout de ses nerfs, il dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » hein, il en arrive jusque-là à dire aux apôtres. Hein, « Mais vous sans intelligence hein, » qu'il leur dit. Eh bien ça nous émeut beaucoup, que notre Seigneur Jésus-Christ enseigne de cette manière-là. Ouais. Alors pensez que vous aussi, ouais, d'une certaine manière, vous avez cette mission d'enseigner. C'est très important. Ouais. Si vous êtes mère de famille, si vous êtes auprès des malades, etc., vous avez enseigné, vous avez à instruire. Ouais. C'est une mission. Nous n'avons pas le droit de garder pour nous cette vérité. Pendant cette retraite, c'est ça sur lequel il faut réfléchir. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ, d'une certaine manière, étant donné qu'il est Dieu, une fois qu'il a enseigné la vérité, il n'y a plus rien à rajouter. Il a tout dit. La révélation de Dieu, elle est complète à la mort du dernier des apôtres. Il n'y a rien à rajouter. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est roi et il n'y a que lui qui a des titres et qui a le pouvoir de nous gouverner. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le prêtre et à sa prière est parfaite, elle est toujours exaucée. Mais voilà, ça c'est ça l'œuvre de la rédemption. Comment notre Seigneur Jésus-Christ sauve le monde? Comment notre Seigneur Jésus-Christ glorifie son Père? Le salut, l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est une œuvre d'enseignement, de doctrine, c'est une œuvre d'intelligence. L'Évangile nous dit, il était la lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout homme venant en ce monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Il est la loi de nos cœurs et il est notre vie. Alors, l'œuvre de la rédemption, elle est complète. Elle est complète. Mais voilà, le voilà. La folie de Dieu, d'une certaine manière, c'est de vouloir que ce qui ne lui revient qu'à lui, d'enseigner, de gouverner, de sanctifier, il a voulu le communiquer à des hommes. Il a voulu le transmettre à des hommes. Voilà, c'est mystérieux. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que l'œuvre de la rédemption soit actualisée par les prêtres, par les éducateurs. Ouais. C'est bien le prêtre, mais vous aussi, en tant qu'éducatrice, vous avez l'œuvre d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. C'est votre mission. Vous n'avez pas le droit de vous soustraire. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été une minable, une incapable, etc. Ça serait très offensant pour le bon Dieu. Aucun de nous ne peut dire ça. Nous devons continuer l'œuvre de la rédemption. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu vraiment donner à ses disciples qui vous écoutent, m'écoutent, qui vous méprisent, me méprisent. C'est pas rien. Et ça, ça vaut pas seulement pour les apôtres, ça vaut pour nos parents. Vous êtes père et mère de famille, vous avez autorité. Vous devez représenter Dieu. Vous n'avez pas le droit de vous dire, mais c'est les curés, c'est les bonnes sœurs, mais mes enfants. Eh non. Vous savez bien que le salut de vos enfants, il tient à vous surtout, avant tout à vous. J'ai été dans une école, vous connaissez les écoles, mais personne, je pense, ne peut me contredire en disant que l'école ne fait que compléter, que achever ce que la famille fait. Sans la famille, l'école n'est rien du tout. Rien du tout. Mais c'est clair. Ouais. À part quelques exceptions, et Dieu merci, il y a des exceptions, mais ça vaut toujours la peine de faire des tentatives, d'aller chercher des enfants et pour les éduquer sans les parents, quelquefois malgré les parents. Mais c'est presque toujours un échec. Ce qui nous grave, moi qui suis prêtre, j'ai toujours connu des prêtres, j'ai connu Monseigneur Lefebvre pendant tout mon séminaire, mais j'ai été infiniment moins influencé que mes parents. Si je suis prêtre, c'est mes parents, avant tout, mais bien sûr. Et on le voit bien, nos anciens élèves de nos écoles, autant des dominicaines que de la fraternité Saint-Pilice, ceux qui persévèrent, c'est ceux qui ont une vraie famille, des vrais parents, mais bien sûr. À nombre d'années d'école correspondantes, la différence, elle se fait là. Bien sûr, ce qui grave le cœur d'un enfant pour la vie éternelle, mais c'est les parents. Donc vous ne pouvez pas. Et alors comprenez bien que la retraite, ce n'est pas simplement à accumuler des nouvelles pratiques de piété, etc. Hein, et vous plonger dans le miel de la dévotion. Sans doute, il en faut. Mais essentiellement, c'est ça. Le fond de l'affaire, c'est ça. Comment vous rayonnez notre Seigneur Jésus-Christ ? Jésus-Christ, il est à travers vous. Il est à travers le cœur d'une mère. C'est clair. Une religieuse, etc. C'est ça, ce qui nous sanctifie. Et c'est une loi évidente qu'on profite des bienfaits de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ pour autant qu'on le communique aux autres. C'est la vie, ça. Bien sûr. Ouais. Vous voyez bien, une mère de famille, en transmettant la vie, etc., eh bien, elle s'épanouit. Je me souviens, c'était le frère Dominique à Écône. Il prenait la soutane. Donc, il est, je crois, le troisième de 12 ou 13 enfants. Donc, il faisait sa profession religieuse, il avait 20, 21 ans. Donc, ses aînés devaient avoir 25, 26 ans. Donc, imaginez l'âge des parents. Eh bien, on prend une photo donc, de la famille, etc. Et évidemment, il y avait la mère au milieu de ses enfants, là. Ouais. Et je me souviens, un prêtre d'Écône, qui n'était pas un naïf, un niais, hein, il prend la mère de frère Dominique pour une de ses sœurs. Oh. Incroyable, elle a eu 12 enfants, on n'allait pas me faire croire que la maternité, ça ramollit et ça... Mais non, on communique la vie et au contraire, eh bien c'est ça, la vie chrétienne, c'est ça. Plus on est possédé, plus on communique notre Seigneur Jésus-Christ, notre vie chrétienne, etc., plus du coup, on s'enrichit, on s'ennoblit de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez tous fait l'expérience, bien sûr, qu'on apprend beaucoup mieux en enseignant qu'en écoutant passivement. Oui, bien sûr. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à son baptême, il y a cette manifestation de Dieu. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est essentiel. Alors, sans doute, il est très important d'aller dans le catéchisme. Le catéchisme a vraiment ce secret de nous mettre sous des formules bien concentrées, explicites, simples, très courtes, notre foi, tout ce que nous devons croire. Mais attention, celui qui ne connaîtrait que le catéchisme, c'est une doctrine qui est desséchée Il faut le catéchisme, il faut le posséder, bien sûr, mais il faut le retremper dans cette parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il faut les deux. Aujourd'hui, on vous prétend qu'au catéchisme, il suffit de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que justement, la religion est vivante, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ils ont tout à fait raison, mais ils méprisent, et ça c'est vraiment un tort, le catéchisme. Le catéchisme, c'est vraiment l'Église qui est missionnée de Dieu pour nous interpréter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'avoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'elle nous soit expliquée, qu'elle nous soit appliquée. Et c'est ça l'œuvre de l'Église. Ouais. Vous voyez les protestants qui prétendent, eux, ne se rapporter qu'à la parole de Dieu. Eh bien, il n'y a pas d'unité chez eux. On me disait que rien qu'aux États-Unis, il y a 600 sectes protestantes. Ils ont tous le même livre. Ouais, mais du coup, ils se divisent. Parce que la même parole, elle n'est pas interprétée de l'un à l'autre. Pour nous, catholiques, bien, nous avons besoin, justement, d'avoir le magistère de l'Église, d'avoir l'autorité de l'Église, qui nous donne la même manière de croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a voulu que tout ce qu'il a dit, et il a tout dit, eh bien, nous soit appliqué, nous soit interprété, nous soit actualisé aujourd'hui par le pape, par les évêques, par la tradition. Nous en avons besoin. Ouais. Et un enfant... Sans doute, vous l'envoyez au catéchisme, il va entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, par le prêtre, s'il a la chance d'avoir un prêtre pour lui enseigner le catéchisme. Ouais. Mais c'est vous, par votre manière de faire, votre manière d'agir, etc., qui allez graver en lui la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la manière la plus vivante, la manière la plus affectueuse, la manière la plus enracinée. C'est vous, vraiment. Ouais. Un enfant, bien sûr, il faudra qu'il ait le catéchisme, qu'il ait le manuel, qu'il ait l'écriture sainte, qu'il ait la Bible. Mais essentiellement, c'est votre parole à vous. Comment vous parlez de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous savez parler de notre Seigneur Jésus-Christ? De la mode, je ne vous pose pas la question. Normalement, ça devrait marcher. Ouais. Mais ça ne suffit pas. Ouais. Vous devriez être capable. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui se dit, moi, non, j'ai pas fait de la théologie. Comment voulez-vous que je parle de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si on aime quelqu'un vraiment, on sait en parler, on trouve les mots, maladroitement au départ, mais on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vraie question pendant cette retraite. Ouais, comment je parle de notre Seigneur Jésus-Christ? Ouais, comment j'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ? Si je ne le connais pas, si c'est pour moi toujours quelqu'un un peu d'étranger, quelqu'un qu'on redoute, qu'on regarde de loin, oui, vous m'avez vu, je suis là parmi les autres, mais surtout ne posez pas de questions, je suis timide, je suis facilement impressionnant, moi, j'aime pas le contact personnel, tout ça. Non, globalement, arrosez-moi de votre doctrine comme ça, mais je ne veux pas trop me sentir visé personnellement. Ça, c'est pas possible. Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que pour chacun de vos enfants, vous vous rendez bien compte que même s'ils ont la même origine, c'est vraiment la chair de votre sang et de vos os, ils sont complètement différents. Vous ne pouvez pas avoir le même message vis-à-vis d'un enfant à un autre, parce que voilà, chacun son histoire, chacun son tempérament. Vous adaptez. Eh bien, cette parole du Christ qu'on possède dans l'Évangile, etc., dans le missel aussi, elle a besoin d'être malaxée, elle a besoin d'être assimiler, il faut approprier la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre mission. Ouais, vos enfants sont déterminés d'une manière, on peut dire, définitive. On dit à certains qui ont la théorie qu'un enfant est formé à 3 ans ou 5 ans. Bon, ça se discute, hein. C'est des opinions. Mais il y a quelque chose de vrai. Les premières marques, le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ est à travers ce que dit une mère. Bien sûr, comment vit une mère, qu'elle soit un exemple vivant, une parole vivante de notre Seigneur Jésus-Christ à travers ses exemples. Mais c'est clair, et c'est ça le fond de la retraite. Oui, foncièrement. Ouais. Que la religion ne soit pas quelque chose de formel, simplement une sorte de convention dans ma vie, une tradition, voilà, un folklore, disons, dans mon existence. Non, c'est vraiment quelque chose de vécu et quelque chose que je veux transmettre. « Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, attention, il faut la recevoir avec grand respect. Qui rougira de moi et de ma parole, je rougirai de lui devant mon Père. Attention, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin compare la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est vraiment posséder notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais il y a dans la parole de Dieu, Dieu lui-même. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, ma parole, elle est esprit et vie. Ouais, notre parole, souvent, c'est du son, disons, c'est de l'air qui se déplace. Ouais, avec, et notre parole, bien souvent, elle ne correspond pas avec ce qu'on est profondément. Nous nous cachons derrière nos paroles, souvent c'est un masque, pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Lorsque notre Seigneur, Jésus-Christ veut ressusciter Lazare, il ne va pas prendre toutes sortes de moyens, c'est sa parole. Lazare, viens dehors! Il sort du tombeau. Alors, là, vous prenez conscience qu'il y a une parole là qui n'est pas tout à fait habituelle. Une parole qui ressuscite un mort. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit moi, ma parole est esprit et vie, vous comprenez que ça ne se discute pas. Et bien souvent, lorsque nous lisons l'Évangile, parce que nous considérons les choses un peu en surface, ça nous semble banal par rapport à certains récits d'aventures, etc., de romans. Oh là là, la parole de l'Évangile, quel malheur, quel malheur. Ou bien cette parole de l'Évangile, nous finissons par la relativiser, par la discuter, par... C'est impossible. Ma parole est esprit et vie. Ouais. Donc c'est ça la retraite. Ouais. Est-ce que vous avez, vous dites que vous ne pouvez pas aller communier et aller à la messe tous les jours, mais est-ce que vous recevez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez ce goût, vraiment, de lire l'Évangile? Ouais. De vous nourrir de l'Évangile. C'est une véritable nourriture, l'Évangile. Ouais. Quelqu'un qui ne peut pas aller communier, mais qui se nourrisse de la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie. Ouais. Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est du parti de la vérité, écoute ma voix. Donc c'est fondamental, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est fondamentale. Vous voyez, par rapport le père Emmanuel, donc ce curé du Ménil Saint-Loup, un autre curé d'Ars, il nous dit quelles sont les fonctions du prêtre. Il nous dit que la première fonction du prêtre, c'est d'abord de prier. Ensuite, c'est d'enseigner. Et ensuite, c'est de sanctifier par les sacrements. Il faut faire les trois, mais il y a une hiérarchie. Et c'est d'abord de prier. Pourquoi le prêtre doit d'abord prier? Parce que justement, l'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. Et donc, tout ce que va faire le prêtre, ou l'éducateur, l'éducatrice d'enseigner, etc., ce n'est que par délégation. De moi-même, je n'ai rien à proposer comme une pensée qui serait supérieure à celle des autres. Je n'ai rien, aucun droit à obliger les autres à une certaine soumission. Et comment pourrais-je prétendre sanctifier les autres? De moi-même, je ne suis pas meilleur que mon voisin. Qu'est-ce qui me donne vraiment, eh bien, ce pouvoir d'enseigner, de gouverner, de sanctifier? Eh bien, c'est parce que je l'ai reçu de Dieu. Donc, dans la prière, justement, je ne vais pas seulement... Souvent, on considère la prière comme quelque chose qui nous permet d'obtenir les secours de Dieu, ouais, les bénédictions de Dieu. C'est vrai que c'est ça aussi la prière, bien entendu. Mais ce n'est pas d'abord ça. La prière, c'est d'abord, vous voyez, conformer ma volonté à celle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il prie lui-même, il dit, « Mon Père, que votre volonté soit faite, et non la mienne. » Vous voyez, nous, quand on débute notre journée, on a notre programme, etc., on a nos projets, on a nos intentions, etc., tout est fixé, et on dit au bon Dieu, « La chance, s'il vous plaît. Faites que tout ça réussisse. Hein. » Eh, c'est pas ça. On renverse complètement les rôles. Dans ce cas-là, c'est nous qui prenons les initiatives, etc. Les entreprises, on se fixe. Et puis on dit, oh, bon Dieu, vous êtes tout puissant. Faites en sorte que ça réussisse. C'est pas ça, c'est le bon Dieu qui décide. Ouais. Donc la prière, c'est d'abord me conformer à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ, justement, en tant qu'il est homme, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre bien, ma parole, ma doctrine n'est pas ma doctrine, elle vient de mon Père. Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait à travers moi. Ça, c'est vraiment renversant. Comment notre Seigneur Jésus-Christ ne fait rien sans faire référence à son Père en tant qu'il est homme? Vous voyez, quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Apprenez que je suis doux et humble de cœur ». Parmi toutes les vertus dont je vous donne l'exemple, la principale, c'est l'humilité. Mais quelle humilité chez notre Seigneur Jésus-Christ? Pour nous, l'humilité, c'est le pécheur qui reconnaît ses fautes, qui s'humilie. Elle ne peut pas exister en notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas être le modèle de cette humilité-là, du pécheur, étant donné qu'il n'y a pas de péché en lui. Alors en quoi il est modèle d'humilité? Eh bien, précisément cela, que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de son Père. Oui. Et la doctrine qu'il prêche, eh bien, c'est une doctrine qui lui vient d'en haut, il lui vient de son Père. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Donc, notre première fonction à nous, oui, nous sommes tous des éducateurs, oui, les devoirs que doit se reconnaître un prêtre vis-à-vis des âmes, vous devez vous les reconnaître, ces mêmes devoirs vis-à-vis de vos enfants, absolument. Vous êtes responsable du salut de vos enfants. Souvent, les saints nous disent, ouais, qu'on ne se sauve jamais seul, bien sûr, mais c'est surtout vrai pour des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Lorsque vous avez Caïn qui dit, une fois qu'il a tué Abel, « Suis-je responsable de l'âme de mon frère ?» ouais. Eh bien, évidemment, là, c'est une véritable provocation et c'est un blasphème fait à Dieu. Mais nous n'avons jamais le droit de dire « Moi, ce n'est pas mon problème. Hein, » que les âmes se perdent ou se sauvent. Et arrivent au jour du jugement, ouais, notre Seigneur Jésus-Christ fera notre examen sur la manière dont nous avons enseigné, dont nous avons gouverné, dont nous avons sanctifié. Rien à faire, c'est ça. Mon examen de conscience, pour la confession que vous préparez, il est là, il se trouve là. Ouais. Par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, comment ce trésor que vous recevez de la religion, de ses vérités, de ses commandements, ouais, et de ses grâces, comment vous les transmettez, comment vous les communiquez? Il est là le vrai problème de la confession. Et non pas à couper les cheveux en quatre, à tomber dans les scrupules, etc. Ouais. Alors ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, je suis la voie. Ouais. Tous les commandements ont une raison d'être, une justification par rapport à notre nature. Ouais. Étant donné que nous sommes créés à l'image de Dieu, noblesse oblige, bien sûr. Certains imaginent les commandements de Dieu comme une sorte de code arbitraire, hein, de même qu'on peut conduire à droite si on est en France ou à gauche si on est en Angleterre. Eh bien, les mêmes commandements, le bon Dieu aurait pu, comme ça, hein, faire en sorte que ce soit l'inverse, finalement. Hein, ça, c'est fou. Absolument fou, ouais, de penser que les commandements, c'est simplement des choses qui ont été fixées sans fondement, sans justification. Bien sûr que non, les commandements correspondent profondément, ouais, à ce qu'il y a de plus noble dans notre nature, de plus exigeant dans notre nature. Mais je pense que surtout les commandements, il faut les voir en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la voie, il est le commandement parfait. Ouais. Suivre, ouais, remplir les commandements de Dieu, ouais, ce n'est pas s'astreindre à des obligations, à des préceptes, ouais. C'est suivre quelqu'un, c'est suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ça change tout, ça change tout. Il ne faut pas avoir une mentalité de mercenaire, de forçat avec son boulet qui traîne là. Hein. Ce n'est pas ça du tout les commandements de Dieu. C'est sûr que les gens qui nous voient de l'extérieur, ils ont l'impression que les catholiques, c'est des gens qui sont dans une sorte de cadre rigide, hein, et tout côté, pan, il y a un commandement, hein, ils se cognent à tout côté, ils ne peuvent pas bouger ces gens-là. Ouais. Ah ben, bien sûr, si on le regarde de l'extérieur, c'est vrai. Ouais. Pour nous, c'est suivre quelqu'un. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est suivre notre Seigneur Jésus-Christ, essentiellement. La loi de Dieu. Alors évidemment, Ça ne va pas nous dispenser de suivre, d'appliquer certaines règles précises, etc. Mais fondamentalement, il ne faut pas perdre de vue, quand même, cet idéal. Hein, je suis la voie. Ouais. Il suffit de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans les exercices de Saint Ignace, on demande la grâce. La grâce de connaître notre Seigneur Jésus-Christ plus intimement, de l'aimer plus ardemment et de le suivre plus fidèlement. C'est ça, finalement. On pourrait dire que votre objectif de retraite, il est là. Connaître notre Seigneur Jésus-Christ plus intimement dans sa vérité. Ouais. L'aimer plus ardemment en suivant ça. Ouais. Et le suivre plus fidèlement. Ouais, dans son salut. C'est ça. Donc vous voyez que notre Seigneur, vous avez des gens qui s'intéressent à l'évangile parce qu'ils trouvent quand même qu'il y a une véritable sagesse. Ils trouvent en notre Seigneur Jésus-Christ une doctrine extrêmement élevée, digne d'intérêt. Mais attention, notre Seigneur Jésus-Christ ne passe pas son temps à enrichir notre intelligence, à nous donner des belles vérités qui comblent, qui satisfont nos aspirations intellectuelles et spirituelles les plus nobles. Jésus, il commande notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment législateur. Des gens qui vous disent « Moi, je suis très croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Mais ils se fichent du monde, ces gars-là. Ah, c'est impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement quelqu'un qui nous demande de croire. Il faut pratiquer. Il est roi. Il gouverne. Ouais. Et c'est quand même très impressionnant quand il est devant Pilate, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis roi. Je suis roi. Ouais. » Et pourtant, il est dans une situation absolument tragique, dramatique. Mais il a beau jeu, Pilate, de dire, mais où sont tes disciples? Tu es roi de qui, au fait? Hein, tes apôtres, ils sont où? Tous ceux que tu as guéri, etc. Tous ceux qui disaient, Hosanna, il y a 8 jours, là, au rameau. Hosanna, au fils de David, etc. Mais ils sont où, ces gars-là? T'es roi de qui? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ ne désarme pas, il est roi. Ouais. Et un jour ou l'autre, cette royauté elle s'appliquera. Ouais. Il n'y a rien à faire. Donc, plusieurs fois, notre Seigneur Jésus-Christ dit, vous avez appris de vos pères à faire telle chose, à vous obliger à telle autre, etc. Moi, je vous dis, il a autorité. Notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il gouverne. Et c'est important. Ouais. Vous devez être aussi des personnes qui gouvernent. Ouais. On a souvent des mères de famille d'un dévouement incroyable qui s'usent au travail, mais qui ne savent pas gouverner, qui ne savent pas décider, ouais, qui ne savent pas commander, récompenser, punir. Et c'est indispensable. Un foyer, une famille où il n'y a pas vraiment cette loi qui est imposée d'une manière évidemment très affectueuse, très... maternelle, mais effective, sans doute, c'est le mari, le chef qui a ce pouvoir de gouvernement dans des occasions qui touchent le bien commun. Mais la mère aussi gouverne d'une manière évidemment plus délicate, peut-être plus subtile et plus cachée, mais elle gouverne, elle doit gouverner. Et c'est une vérité. On dit que la faiblesse, c'est la pire des cruautés. La pire des cruautés. Un enfant, c'est quelqu'un qui est très instable, qui est très... Et un enfant, il attend une autorité, non pas sèche, non pas austère et tyrannique, mais une véritable autorité, il a besoin de cela. Ouais. Alors, vous avez aussi des prêtres qui sont extrêmement dévoués, etc., disponibles pour les sacrements, mais qui ne veulent pas gouverner. Eh bien, c'est trahir notre charge. Sans doute, nous pouvons... à travers ces différentes charges, avoir plus de facilité pour l'un ou l'autre rôle. Mais nous ne pouvons jamais, par principe, exclure tel ou tel ça. Nous pouvons être plus ou moins bons dans l'enseignement, dans le gouvernement ou dans la sanctification, plus ou moins bons. Mais nous ne pouvons pas nous dire « j'ai le droit d'être zéro, cela je l'exclus ». Ça, c'est impossible. Ouais. Notre mission, elle est complète parce que notre Seigneur Jésus-Christ, Il est prophète, il nous enseigne. Mais il gouverne. Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ gouverne. Mais là aussi, vous voyez, comment notre Seigneur Jésus-Christ gouverne? Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. car je suis doux et humble de cœur, mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est parce que nous avons l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous dire ça. Voilà, c'est un joug. Hein, j'aime bien cette expression d'un joug. Bon, évidemment, maintenant, ça ne se voit plus que dans les musées. Mais c'est quand même bien de voir qu'est-ce que c'est qu'un joug, cette pièce de bois, hein, qui se met sur deux animaux. Un joug, vous ne pouvez pas mettre sur un seul animal. Vous voyez, jamais un bœuf tiré avec tout ça, ça se met sur deux. Bien justement, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous pose un joug, c'est-à-dire que la loi de Dieu, eh bien, on l'applique avec lui. On a le même, chaque fois qu'on tourne la tête dans un sens, donc aussi, ouais, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça change tout. Bien souvent, la loi de Dieu nous devient intolérable parce qu'on prétend justement tirer tout seul, hein, et faire les gens tout seul, ben, on n'y arrive pas. Ouais. Donc mon joug est doux et mon fardeau léger. En latin, onus. Onus, c'est un poids. Mais si vous allez dans un dictionnaire latin, onus, oneris, le poids, c'est le poids, ouais, d'une mère qui porte un enfant. C'est une belle comparaison. C'est un poids, c'est une charge. Et nous, évidemment, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, à votre place, mais pendant 9 mois, il faut quand même porter cette charge. Mais dans cette charge, il y a la vie. Il y a la vie. C'est merveilleux. La femme, combien, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, elle souffre, sans doute. Et quel respect on doit avoir pour la douleur, pour les souffrances, les peines de nos mères. Ouais. Mais en même temps, elle a quand même l'honneur, la gloire de porter la vie en elle. Ouais. Eh bien, la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. C'est un joug que je n'ai pas porté tout seul. C'est toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours lui qui est là. Ouais. Et puis en même temps, cette loi de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est ma vie. Je sens bien que chaque fois que je m'écarte de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, je me diminue, je suis en train de me souiller, je perds cette vitalité, je perds cette joie intérieure, vraiment. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ qui fait preuve de miséricorde, fait jamais, il tombe jamais dans la complicité. Avec la femme adultère, notre Seigneur Jésus-Christ accepte qu'on le prenne pour juge. Cette femme qui a été prise en délit d'adultère, on demande à notre Seigneur Jésus-Christ de faire le jugement, puisqu'il prétend être le Messie, il a bien le droit. C'est prévu dans l'Ancien Testament que le Messie serait juge. Eh bien, vas-y. Il pensait, là, l'avoir mis en situation de difficulté. S'il laisse aller cette femme, hein, eh bien, c'est un, finalement, il est en connivence avec le péché de cette femme. Et au contraire, s'il la punit, il la châtie, il va contre cette doctrine de douceur, etc. Alors, vas-y, juge-la. Et notre Seigneur Jésus-Christ accepte, bien sûr, de juger cette femme. Hein, évidemment, il s'y prend d'une manière magnifique, hein, vraiment mystérieuse. Eh bien, que le premier d'entre vous, hein, qui n'a pas commis le péché d'adultère, hein, il s'agit de ça, ouais, lui lance sa première pierre, hein, et tous y dégagent, évidemment. Hein, facile, femme adultère et les hommes adultères aussi. Mais ils dégagent tous. Ouais, ouais, bien compris le message. Mais lui dire à cette femme, moi non plus, il n'y a personne qui te condamne ici, moi non plus. Mais va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ, attention. Ouais. S'il est miséricordieux, il ne va jamais nous encourager dans le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ, il, dans ses béatitudes, il nous donne la loi du bonheur. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez que le premier discours de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sur la montagne. Et qu'est-ce qu'il fait sur la montagne? Quel est son premier message? Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume, bienheureux ceux qui pleurent, etc. Bienheureux les persécutés. Il donne la doctrine du bonheur. Voilà, il vient pour gouverner, pour nous diriger vers la voie du bonheur. Mais il y a les malédictions aussi. Non pas que notre Seigneur Jésus-Christ souhaite le mal, mais il avertit notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous! Si aujourd'hui les hommes vous applaudissent, etc., si aujourd'hui vous êtes dans le bien-être, etc., malheur à vous, nous avertit, notre Seigneur Jésus-Christ va nous juger. Il parle de l'enfer, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est juge. Faut savoir être sévère quelquefois. Même avec votre mari, dans certaines situations, vous n'avez pas le droit de tout avaler pour la paix de la famille, etc. Vous avez un droit, devoir de correction fraternelle. Et dans certains domaines, c'est quand même l'épouse, la mère, qui a souvent le bon jugement. Autant dans d'autres domaines, le mari est la règle, etc., il a les grâces d'État. Dans d'autres domaines, c'est l'épouse et la mère qui a vraiment la grâce. Et quelquefois, le mari lui-même a besoin d'être remis sur les rails. Mais nous-mêmes, prêtres, nous avons besoin. Nous avons besoin de supérieurs. Donc, personne. Donc, nous avons ce devoir de gouverner. Posez-vous la question. Votre examen de conscience, il est là. Oui. Comment vous exercez l'autorité, fondamentalement? Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Attention, oui, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas semblant d'utiliser les apôtres pour continuer son œuvre de rédemption, etc. Vraiment, c'est de la réalité, il leur communique vraiment ses pouvoirs. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que ce que les apôtres auront exercé dans le gouvernement, c'est ce qui sera retenu au ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Je vous donne le pouvoir de remettre les péchés. Rien à faire. Bon, on ne peut pas vivre.